Bonjour, merci d'écouter la balado des garanties collectives de la financière Sun Life sur l'accès au soutien en santé mentale. Je m'appelle Mélissa Paré et je suis conseillère en santé organisationnelle. J'ai avec moi Valérie Legendre, conseillère principale en santé mentale et psychologue agréée. Merci d'être là, Valérie.
Ça me fait plaisir, Mélissa.
Vous ne serez peut-être pas surpris d'attendre qu'environ un Canadien sur cinq souffre d'un problème de santé mentale. En fait, selon la Commission de la santé mentale du Canada, 30 % des demandes de prestations d'invalidité de courte et de longue durée sont dues à des troubles mentaux, surtout l'anxiété et la dépression. Par ailleurs, mentionnons qu'il est facile de se perdre dans le nombre de services et de traitements offerts.
Avant de commencer, je précise que je m'exprime en mon propre nom et non en celui de la financière Sun Life. Je collabore avec l'entreprise sur une variété de sujets comme celui-ci et je suis contente de pouvoir offrir mon opinion et mes conseils. C'est vrai, ça peut être difficile de s'y retrouver tellement il y a d'approches thérapeutiques et de services offerts. On peut avoir recours aux services de conseiller dans un programme d'aide aux employés, de psychothérapeutes autorisés, de travailleurs sociaux, de psychologues, de psychiatres, de thérapeutes en dépendance pour les problèmes de toxicomanie, et de plein d'autres conseillers qui ne font pas partie d'une association reconnue.
Tu as mentionné les psychologues comme toi et les psychiatres. Dans le domaine de la santé mentale, ce sont peut-être les deux types de spécialistes que les gens connaissent le plus. Peux-tu expliquer la différence entre les deux?
Bien sûr. Les psychiatres ont un diplôme en médecine en plus d'avoir fait 4 ans en psychiatrie. Il y en a un peu plus de 4700 psychiatres au Canada. Mais comme tu peux l'imaginer, ils ne sont pas répartis uniformément sur le territoire. La plupart d'entre eux exercent dans les grandes villes. Comme ils sont médecins, les psychiatres peuvent, entre autres, prescrire des médicaments pour gérer, par exemple, les symptômes de la dépression, de l'anxiété et de la psychose. Les psychologues sont spécialisés dans l'évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles mentaux et de différents problèmes relationnels et de comportement. Ils ont une formation poussée en psychothérapie et en sciences comportementales. Il y en a un peu plus de 18 000 psychologues au Canada. En plus des psychologues et des psychiatres, il y a plusieurs types de thérapeutes en santé mentale qui peuvent offrir différents traitements. Il existe au moins 200 options en intervention comportementale et en psychothérapie. Parmi les traitements les plus connus, dont l'efficacité a été prouvée par des études approfondies, on a la thérapie cognitive du comportement, la psychothérapie interpersonnelle, la psychothérapie psychodynamique, la thérapie comportementale dialectique et la psychothérapie centrée sur les émotions.
Avec toutes ces options, comment on peut savoir quel thérapeute et quel traitement nous conviennent?
Pour obtenir le bon traitement, on doit d'abord savoir quelle est la formation en santé mentale du thérapeute et s'assurer qu'il est membre en règle de l'organisme dont il détient son permis. Au Canada, ce sont les provinces et les territoires qui régissent les professionnels de la santé. Pour savoir si un thérapeute est en règle, vous devez chercher son nom sur le site Web de l'organisme de réglementation professionnelle de la province ou du territoire. Par exemple, au Québec, le nom d'un psychologue devrait figurer sur le site Web de l'Ordre des psychologues du Québec. En outre, si on a des symptômes, on devrait d'abord consulter notre médecin de famille pour s'assurer que ça ne cache pas un problème physique. Si un psychiatre est la personne la mieux placée pour prendre la situation en charge, on aura besoin d'une recommandation du médecin. La plupart du temps, on peut prendre rendez-vous avec un psychologue sans recommandation du médecin. Mais pour certains régimes de soins médicaux, les honoraires du psychologue sont remboursés seulement si vous avez une recommandation.
Qu'arrive-t-il si un patient utilise la thérapie virtuelle pour obtenir des soins en santé mentale et que le thérapeute ne se trouve pas dans la même province que lui? Où doit-il vérifier les permis?
Dans la province ou le territoire du patient, le professionnel doit être autorisé à exercer dans la province ou le territoire où il offre des services. Prenons le cas d'un professionnel autorisé du Nouveau-Brunswick qui offre ses services à un patient du Québec. Le professionnel doit avoir le droit de pratiquer dans la province où se trouve son patient, en l'occurrence au Québec. Pour assurer un traitement optimal, qu'il soit donné en personne ou virtuellement, il faut que le thérapeute soit capable de fournir les soins qui répondent aux besoins de la personne qui cherche un traitement. Dans bien des cas, vous pouvez vous renseigner sur le thérapeute avant même de le rencontrer. Vous n'avez qu'à consulter le site web de son cabinet. Lors de votre première rencontre, le thérapeute vous fournira des renseignements sur ses compétences, son expérience et ses honoraires, et aussi sur les limites de la confidentialité, peu importe que vous les demandiez ou non.
Disons que la personne qui recherche un traitement a choisi un thérapeute et le rencontre pour la première fois. À quoi peut-elle s'attendre? On peut parfois se faire une fausse idée du traitement. Par exemple, à la télévision, on voit des séances de psychothérapie où une personne est couchée sur le divan et parle de son enfance.
Le but de la thérapie est de vous aider à avoir une vie meilleure. Ce n'est pas toujours nécessaire de parler de votre enfance ou de consulter chaque semaine. Mais des fois, ça peut être le cas, selon le style de votre thérapeute et vos préoccupations. L'efficacité d'une thérapie dépend de votre niveau de confort et de votre capacité à être transparent dans ce que vous partagez sur ce que vous vivez et vos difficultés. La confiance et le respect mutuel sont à la base d'une bonne relation thérapeutique. Mais la thérapie peut parfois être exigeante, surtout quand vous abordez des sujets douloureux ou que vous essayez de changer les schémas cognitifs et relationnels que vous avez depuis longtemps. Le thérapeute pourrait d'entrée de jeu vous demander la raison de votre présence et vous poser des questions sur vos capacités fonctionnelles actuelles et passées pour préparer un plan de traitement. Son objectif est de créer un environnement sécuritaire où vous pouvez parler de vos émotions et de votre vécu.
Tu viens de parler d'environnement sécuritaire. Ça nous rappelle que les préjugés sur la santé mentale peuvent souvent empêcher une personne d'aller chercher l'aide dont elle a besoin, souvent par peur d'être jugé. Est-ce que tout ce que le patient dit à son thérapeute reste confidentiel?
Les services d'un psychologue sont des services de santé. En règle générale, le professionnel doit garder confidentiel tout ce que lui dit son patient, à moins d'avoir obtenu de ce dernier l'autorisation explicite de communiquer des renseignements sur sa santé. Cette confidentialité peut toutefois avoir des limites. Par exemple, si le thérapeute craint que la personne représente un danger pour elle-même ou pour les autres, il y a habituellement l'obligation d'intervenir, même si c'est une violation de la confidentialité. Même chose si le thérapeute apprend qu'un mineur ou une personne âgée est ou pourrait être victime d'abus, il a l'obligation de signaler cette situation. Il existe d'autres rares exceptions où le professionnel doit expliquer les limites de la confidentialité avant le début de traitement pour s'assurer que le patient est au courant de ses particularités. Toutefois, en général, tout ce qui est dit au cours de la thérapie demeure confidentiel. Ainsi, même si vous rencontrez votre thérapeute à l'épicerie, il fera semblant de ne pas vous reconnaître pour respecter votre droit à la vie privée.
Les traitements peuvent coûter cher car ils ne sont pas couverts par les régimes d'assurance maladie provinciaux. Y a-t-il des options abordables?
En ce qui concerne les honoraires, je recommande de vérifier votre régime d'avantages sociaux pour voir les services en santé mentale qui sont couverts. La couverture peut varier, mais beaucoup de régimes prévoient une somme pour les services en santé mentale et bien des employeurs ont un programme d'aide aux employés et à la famille qui offre un soutien limité. Les programmes d'aide aux employés sont utiles si des difficultés liées à votre santé mentale vous rendent moins efficace au travail. Communiquez avec votre service des ressources humaines pour voir si vous avez accès à un programme d'aide aux employés. Habituellement, ces services conviennent mieux à un engagement à court terme qui demandera un nombre limité de séances. Dans bien des cas, les services sont offerts à distance, généralement au téléphone, mais certains fournisseurs offrent des séances en personne. Si vous n'êtes pas couvert, demandez à votre médecin de famille s'il y a des services en santé mentale dans votre région qui sont financés par l'État ou un organisme sans but lucratif. Le soutien et les traitements existent bel et bien, mais ça peut être difficile de les trouver. Utilisez les ressources que votre employeur met à votre disposition et comptez sur les professionnels de la santé, comme votre médecin de famille, pour vous diriger dans la bonne direction. La financière Sun Life offre également un outil de recherche de fournisseurs qui aide à trouver plusieurs types de professionnels de la santé, notamment des psychologues.
Merci Valérie d'avoir pris le temps de nous parler. Tu as décrit plusieurs excellents moyens pour les gens d'accéder aux soins dont ils ont besoin en santé mentale. Chers auditeurs, pour en savoir plus sur la santé mentale ou trouver un thérapeute près de chez vous, visitez le site sunlife.ca.